Cette émission a reçu le soutien financier de la communauté de communes du Clermontais.
Bonjour, nous sommes en direct de la communauté de communes du Clermontais, Salagou, Cœur d'Hérault, et nous sommes en présence de Claude Revel. Bonjour.
Bonjour.
Joseph Rodriguez.
Bonjour.
Marie Passieux.
Bonjour.
Et Lucie Moreau qui est là.
Bonjour.
Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette compétence GEMAPI qui est existante depuis 2018 et là, vous êtes sur un plan de gestion sur 10 ans.
Alors la GEMAPI, compétence depuis 2018 au niveau des intercommunalités, c'est-à-dire que l'État nous a délégué la responsabilité de l'entretien des cours d'eau et nous a donné la possibilité, puisque lui ne souhaitait pas le faire, de prélever de l'argent sur le contribuable pour gérer les cours d'eau que lui n'avait pas entretenu depuis des années. Donc nous avons donc en 2018 pris cette compétence avec quand même un arriéré important et un travail énorme à faire sur des cours d'eau puisque nous avons 700 et quelques kilomètres sur notre territoire, donc quand même un point très important de GEMAPI à régler sur notre territoire.
Et alors, en quoi consiste ce plan de gestion, même si Lucie Moreau peut-être nous en parlera un petit peu plus précisément, ou Julien, directeur de la GEMAPI, dites-nous un petit peu quelles vont être les étapes et quelles sont les étapes à l'heure actuelle.
Alors, ce qui nous paraissait important au départ, c'était de dire, la GEMAPI c'est bien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait et où on va. Donc, comme nous le souhaitons dans cette intercommunalité, c'est avoir une vision toujours sur les 10 ans à 20 ans à venir, puisqu'on ne gère pas les problèmes d'un cours d'eau en deux coups de cuillère à peau, je pourrais dire. Il faut avoir cette vision globale. Donc, il a été intéressant de travailler au niveau de l'intercommunalité, et je remercie les services là-dessus d'avoir fait ce travail de déjà d'état des lieux, qui paraît important, et de se projeter sur les 10 ans à venir, comment on va travailler la GEMAPI, comment on va travailler les rivières, comment on va améliorer et comment on va faire passer un message auprès de nos populations pour les impliquer là-dedans, puisque jusqu'à maintenant, on se rendait compte que nos populations n'avaient pas cette réflexion et ce recul sur ce qui se passait au niveau de nos rivières. On s'en rendait compte quand on était inondés, mais on criait, on gueulait après les maires, on gueulait après tout le monde, mais on n'avait pas cette vision et cette réflexion sur nos rivières. Voilà, donc il nous paraissait important d'avoir cette vision à 10 ans et d'avoir cette réflexion, et d'une pour bien sûr travailler là-dessus, mais de deux aussi par rapport aux services de l'État et à tous nos financeurs, de leur montrer qu'il y avait une réflexion globale sur notre territoire.
Justement, il a fallu financer ce service de GEMAPI. Comment ça se passe? On ne vous a pas laissé le choix, vous avez cette compétence et il faut financer. Quel a été votre choix, vous, au sein de la communauté de communes?
Alors, le choix de la communauté de communes, c'était au départ de dire on prend ça sur le budget général de la communauté de communes parce que ça nous paraissait un peu délicat d'aller encore taper sur le contribuable. Mais on s'est aperçu au fil du temps qu'effectivement, il y avait tellement de choses à faire qu'il fallait avoir des ressources nécessaires et qu'on ne pouvait pas taper en permanence sur le budget général. Donc on avait pris le parti de dire on va prélever. Alors on avait la possibilité de prélever 40 euros par habitant sur notre territoire, ce qui correspondait à peu près à 1 200 000 euros qu'on pouvait prélever sur le contribuable. Nous avons fait le choix au départ de prélever que 30 000 euros la première année sur la globalité, donc ça représentait quasiment rien pour le contribuable. Et chaque année on augmentait de 30 000 euros. Donc on est arrivé l'an dernier à peu près 150 000 euros de prélèvement depuis 2018. Et vu l'importance des travaux à réaliser et vu on devait arriver à 300 000 euros sur la globalité, on a pris la décision en conseil communautaire cette année de prélever la totalité des 300 000 euros pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà, donc on ne prélève pas la totalité encore, qui peut arriver jusqu'à 1,2 million. J'espère qu'on ne le prélèvera jamais. Mais il faut quand même qu'on assure cette compétence et cette responsabilité, parce qu'au-delà de la compétence, c'est la responsabilité. En cas d'inondation, en cas de problème comme on a vécu sur la Malou et tout le monde s'en souvient, il faut qu'on assume cette responsabilité. Donc effectivement, il nous faut les moyens de l'assumer.
Et la population y est sensible? Il n'y a pas eu de revendications, de critiques vis-à-vis de ça?
Franchement, non. Non, ça correspond à peu près à 10 euros par habitant par an. C'est pas énorme. C'est plus complexe que ça, puisque c'est prélevé sur la taxe foncière. Donc il y a des personnes qui payent 1 euro, il y a des personnes qui vont en payer 20. Mais ça reste quand même à la marge sur la feuille d'impôt.
Joseph Rodriguez, justement, alors vice-président délégué à cette délégation de l'eau et de la GEMAPI. Donc un état des lieux a été fait. Voilà, déjà, quel est le constat? Quelles sont les problématiques, les enjeux sur ce territoire du Clermontais autour de la GEMAPI?
Bon, et déjà, c'est un travail qui est de longue haleine, qui a été démarré très en amont. C'est déjà de faire un état des lieux, de marquer chaque cours d'eau, de voir le niveau d'intervention que cela demande. Ensuite, effectivement, c'est de travailler avec d'autres services et de mettre en avant tous ces enjeux, de voir comment on peut intervenir et de quelle façon on peut intervenir.
Et alors, quels sont les enjeux, justement? Quel est le constat à l'heure actuelle?
Voilà, le constat, c'est que beaucoup de propriétaires qui sont riverains, normalement, c'est à eux qu'incombe cette responsabilité. Donc, dans un premier temps, ça a été de créer une DG, non, pour pouvoir intervenir, en fait, de passer en DG, de faire avec une enquête publique, de façon à pouvoir se substituer aux propriétaires. Et c'est empêcher effectivement qu'il soit fait n'importe quoi, notamment sur de l'abattage d'arbres, enfin pour faire du bois. Enfin. Et donc l'objectif, c'est de donner au cours d'eau, de rétablir son bon fonctionnement pour qu'il assure sa fonctionnalité.
Et comment ça se passe avec les propriétaires? Ils sont dans l'acceptation aussi de qu'on aille sur leur terrain privé et qu'on leur donne des conseils, des orientations?
Ben, il est vrai que ça peut poser problème parce que certains ne comprennent pas. Par exemple, certains ont érigé des digues pour se prémunir contre l'érosion. Enfin, voilà, donc, quand on intervient, que l'on dit bon, ça, soit on va l'enlever, soit il ne faut plus faire, etc. Effectivement, il peut y avoir. Mais dans l'ensemble, c'est très bien pris qu'on intervienne parce que le résultat est probant.
La GEMAPI, finalement, ça ne se limite pas à couper les arbres en bord de rivière. Il y a d'autres problématiques. On en est où du côté des plantes invasives, par exemple?
Bien, ça, c'est un gros problème, notamment avec la canne de Provence, notamment. Puis après, il y a des espèces qui paraissent plus sympathiques, comme l'arbre à papillons. On a aussi le problème de l'élante, qui est un arbre qui se développe un peu partout, comme on voit sur le bord des routes, mais aussi sur le bord des cours d'eau, qui pose problème, parce que ça empêche ensuite les espèces autochtones de se développer.
Marie Passieux, le département aussi est impliqué dans ce plan de gestion. Dites-nous comment le département est impliqué, justement.
Eh bien, le département, de par sa compétence générale qu'il a continué qu'on lui a enlevé, par la loi NOTRe, a souhaité pouvoir continuer à soutenir les partenaires et les structures qui étaient dans la gestion des rivières et dans la gestion des inondations, à partir du moment où on a pu effectivement être rentré dans ces structures-là et donc être véritablement partenaire. Sur la communauté de communes, c'est la communauté de communes du Clermontais et la structuration que vous avez vue aujourd'hui dans cette gestion des milieux aquatiques et la prévision des inondations, c'est véritablement une communauté de communes qui est en avant. Avec laquelle nous avons déjà eu des soutiens financiers importants justement sur les différents dossiers qu'ils nous ont présentés et nous ne pouvons qu'effectivement être rassurés sur ce qui se passe par rapport à ce nouveau service.
Finalement, le département est un levier pour obtenir des financements, pour pouvoir concrétiser tout ce plan de gestion.
Effectivement, c'est non seulement un appui financier, naturellement, mais c'est aussi un appui en ingénierie qui viennent effectivement aussi soutenir les équipes, même si nous avons sur le Clermontais une équipe particulièrement compétente et expérimentée pour mener à bien ce service, on a toujours besoin naturellement d'avoir des orientations des autres, excusez-moi.
J'aurais une question, je ne sais pas à qui l'adresser, mais sur les actions concrètes, parce que préserver finalement les milieux aquatiques, c'est préserver la ressource en eau potable. Donc qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Quelle vision on puisse avoir du territoire à 10 ans dans un contexte de réchauffement climatique qui est assez caractérisé?
Vaste problème. Non, en fait,
mais on est au cœur du problème.
On est tout à fait au cœur du problème. D'abord, sur les actions qui ont été menées, on a commencé à remettre en place les répulsives. On le voit sur Canet, on l'a fait sur Seyras, on l'a fait sur la Lergue, sur l'Hérault, mais ça va aussi sur la digue du Sclas d'Hérault. En fait, ça va de la protection, mais aussi sur la remise en état des rivières. Plus on va remettre en état nos rivières, et plus on va se protéger contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on va protéger nos ressources en eau. Il faut que le fleuve redevienne ce qu'il était à l'époque et qu'il nous fasse nos réserves d'eau. On sait qu'aujourd'hui, on est tous contraints avec l'eau, le problème de l'eau. Et donc, la GEMAPI va aussi avec la réserve et la ressource en eau. Donc, c'est tout ce travail qui fait que dans les 10 ans à venir, on va se protéger aussi et on va pouvoir conserver au moins nos ressources. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez le fait, c'est très complexe, mais tout va de pair, que ce soit la ressource en eau, mais que ce soit aussi la GEMAPI par l'entretien des cours d'eau.
Justement, le schéma est sorti donc pour les 10 prochaines années jusqu'en 2030. Voilà, quelles vont être les priorités, les axes à venir sur ce plan de gestion?
Aujourd'hui, on a déjà un plan de gestion d'intervention sur la Boyne, donc avec l'enquête publique qui vient de se terminer. Donc on va déposer ces dossiers pour qu'on soit suivi, et puis on attaquera les travaux. On a aussi une réflexion sur la gravière de la Prade, où encore hier on était en réunion et on a associé tous les pratiquants de cette gravière de la Prade, donc tous les utilisateurs. On les a intégrés pour qu'ils nous fassent remonter quelles étaient leur vision de l'exploitation de cette gravière. Quand je dis exploitation, c'est dans l'usage, bien entendu. Donc voilà, c'est d'associer les habitants du territoire, et pas seulement, sur les enjeux du maintien de cette gravière en bon état.
Puis la problématique aussi finalement de votre territoire, c'est par exemple la Lergue, l'Hérault, ce sont des cours d'eau qui vous séparent d'autres PCI. La logique, c'est de travailler aussi du coup en lien avec les collectivités voisines. Vous partagez un seul et même cours d'eau à chaque fois?
Sur les plans de gestion qui ont été réalisés déjà sur la Lergue, on a travaillé avec la communauté de communes du Loir des Voies Larzac, sur l'Hérault avec nos collègues de la vallée de l'Hérault, et puis sur le prochain chantier de la Boyne, on est sur la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Voilà, donc c'est vrai que c'est un travail qui est fait en concertation, qui n'a du sens que si on travaille tous dans le même sens. Et avec également l'établissement public du fleuve Hérault.
J'ai une petite question peut-être à Marie Passieux sur le rôle du salagou, qui est important dans le cadre de la préservation des milieux aquatiques. On sait que depuis 2018, il est utilisé l'été pour permettre des lâchers pour préserver ces milieux sur la Lergue et l'Hérault, et en même temps pour permettre un renouvellement des nappes en bord d'Hérault. Là, le salagou est très bas. Est-ce qu'on va pouvoir effectuer ces lâchers? Et à terme, s'il y a des problèmes de recharge, comment cet outil peut fonctionner?
Alors, au niveau du lac du Salagou, c'est le département qui en a la charge exclusive, puisqu'il en est le propriétaire. Donc la gestion se fait au travers des services du département. En 2018, à la clé, il a été voté que cette réserve d'eau était indispensable pour pouvoir effectivement alimenter l'Hérault en aval. Et donc 35 millions de mètres cubes, je crois, hein, sur l'été qui a été décidé. Effectivement, cette année, le lac est un peu plus bas que ce qu'il devrait être, mais nous assurerons cette année les lâchers indispensables pour non seulement la conservation du milieu aquatique dans l'Hérault, mais aussi pour permettre aux habitants en aval de pouvoir bénéficier d'eau potable. Donc nous le ferons cet été. Charge à nous, au niveau du département, de pouvoir et d'avoir une réflexion. Nous avons une réflexion certaine, puisque quand même le lac du Salagou a aussi un attrait touristique, et pour lequel effectivement c'est très important d'un point de vue économique pour tout notre territoire. Donc nous travaillons sur, par rapport au marnage, sur toutes les possibilités que nous avons de pouvoir faire des équipements qui suivent effectivement le niveau du marnage, et pouvoir s'adapter à ce qui nous arrive actuellement et au contexte dans lequel nous sommes par rapport au réchauffement climatique.
Je voudrais juste rajouter que tout ça ne peut pas se faire sans nos partenaires. Le budget est de l'ordre de 6 millions d'euros sur les 10 ans. Sans l'intervention de nos partenaires, en particulier l'Agence de l'eau qui nous qui nous aide énormément, le département, la région. Enfin, sans tout ce monde autour de nous, on ne pourrait pas réaliser tous ces travaux. Et rajouter également qu'en dehors de la GEMA, il y a la PI aussi. C'est la prévention des inondations. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai une commune où on a les pieds palmés, tellement on a de l'eau dans la commune. Mais il y a ça, mais il y a également dans la prévention les eaux de ruissellement. On n'a pas que les débordements de fleuves. Et la communauté de communes de Clermonté lance une étude aujourd'hui sur Clermont, Brignac, Canet, puisque Canet est inondé régulièrement les quartiers hauts. Et là, ce n'est pas les Raux qui viennent nous inonder. Les quartiers hauts sont inondés par les eaux de ruissellement. Donc on a fait également le choix. Ce n'est pas forcément une compétence obligatoire, mais la communauté de communes a fait le choix de lancer cette étude justement pour aller dans la protection des populations et des habitants et de nos maisons, parce que c'est là aussi que ça intervient.
Et alors, qu'est-ce qui va être fait concrètement, même non, c'est déjà, dans l'étude?
On est sur une étude. C'est difficile d'intervenir sans avoir fait l'étude. Donc, on sait aujourd'hui que les eaux de ruissellement qui nous viennent de Clermont et de Brignac descendent sur la plaine de la Salamane et inondent la commune de Canet. Donc, il faut maintenant... Alors, il y a déjà eu quelques études réalisées par la commune. On est en train de collecter toutes ces études, puisque chaque fois qu'il y a intervention ou qu'il y a du développement urbanistique, il y a des études qui sont demandées. Donc, on collecte toutes ces études. Et on va essayer de trouver les solutions, ou par des bassins de rétention, ou pas, voilà, pour essayer de solutionner ce problème sur la commune de Canet.
Est-ce que vous ne payez pas finalement aujourd'hui voilà, tout ce qui a été urbanisation, peut-être peu concerté, peu réfléchi avec les territoires voisins, non?
Je n'y crois pas. Alors c'est ce que beaucoup de monde souvent pense, que l'urbanisation a fait que. Je n'y crois pas parce que chaque fois que... Alors, on nous a toujours reproché lotissement, mais chaque lotissement a son bassin de rétention. Au contraire, on a amélioré chaque fois. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les pluies sont de plus en plus courtes, mais intenses. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait des pluies fines qui duraient sur des jours et des jours. Aujourd'hui, on le constate partout et on l'a vu ces derniers temps. Ça tombe d'un coup et il faut que ça passe quelque part. Donc effectivement, on est sur une réflexion différente de ce qui se passait avant. Moi, je prends le problème du Garel à l'époque, il coulait, et voilà, aujourd'hui, il déborde. Parce que d'un coup, ça arrive. Voilà, donc il faut analyser tout ça et voir comment on va pouvoir aujourd'hui réguler cette eau qui nous arrive d'un coup. Alors, on peut faire les canalisations qu'on veut, on n'arrivera jamais à la collecter et à la renvoyer au milieu naturel. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à des bassins de retenue, de rétention, d'infiltration. Voilà, donc c'est toute cette réflexion qu'il faut mener. Je crois que le rôle des élus, c'est la protection de nos populations et le rôle de cette GEMAPI et des taxes, bien sûr, qu'on prélève pour assumer tout ça, c'est de pouvoir prévenir et solutionner ces problèmes-là.
Vous travaillez pour vos populations, mais aussi et surtout, finalement, pour les autres populations, pour les populations qui sont, elles, plus en aval.
Tout à fait. En fait...
Qui manque d'eau, tu veux dire?
Non, c'est une chaîne. La difficulté qu'avait une commune, je prends l'exemple de Canet parce que je la connais bien, une commune comme Canet qui était inondée par les eaux de ruissellement, c'est que la commune est tellement petite que quand les eaux y sont, je ne peux pas les traiter. C'est déjà dans le trou de la commune. Donc l'intérêt de la communauté de communes et de PI dans GEMAPI, c'est qu'on a pu, on peut travailler à l'échelle de plusieurs communes. Parce qu'un bassin versant, c'est plusieurs communes. Et seul, je ne pouvais pas le faire. Donc l'intérêt de la communauté de communes, c'est cette possibilité qu'on a aujourd'hui de pouvoir travailler en commun et de trouver les solutions en commun. Voilà. Donc ça, c'est un point fort qu'on a à mettre en avant.
Je rajouterai qu'aujourd'hui, l'alternance de périodes sèches et puis ces épisodes pluvieux que l'on a, c'est vrai que lorsqu'il tombe de la pluie en abondance sur des terrains qui sont secs, ça n'absorbe pas la terre, n'absorbe pas sa ruisselle. Alors même s'il y a un déficit hydrique très important, l'eau le court, effectivement, comme le rappelait le président, si on prend le cas de Canet, on subit un petit peu tout ce petit bassin versant qui arrive sur Canet. Voilà. Donc, mais là, on peut, à l'issue de cette étude, prévoir des ouvrages qui pourront retenir l'eau, pour traiter effectivement. Et puis c'est tout le travail aussi qui est fait un peu sur toutes les communes pour faire de la désimperméabilisation. Refaire du boisement, et le département aussi participe avec les opérations 8000 arbres. Moi, je vois sur Saint-Félix, on en a bénéficié, ça permet de replanter, de compenser un petit peu ce qui peut être par ailleurs destiné à de l'habitat.
Julien Golembiewski, donc directeur de ce service eau et GEMAPI, et donc Lucie Moreau, chargé justement de mission autour de cette GEMAPI. Alors, 2020-2030, ces premières années, elles ont été consacrées finalement à faire l'état des lieux, le bilan. Plus concrètement, à présent, que va-t-il advenir sur ce schéma d'action autour de la GEMAPI sur ce territoire du Clermontais ?
Donc l'objectif, effectivement, pour nous, c'était d'établir une stratégie d'intervention sur la décennie à venir. Un peu si on fait le parallèle l'eau et l'assainissement, où on dispose aujourd'hui de schémas directeurs et donc un fil conducteur sur tous les investissements qu'on doit mener, d'avoir exactement le même pendant sur cette partie GEMAPI. Donc jusqu'à présent, nous sommes déjà intervenus effectivement sur des travaux de restauration de la ripissive, essentiellement sur la Lergue et l'Hérault, parce qu'on disposait des autorisations réglementaires aujourd'hui, bien évidemment, et à travers cette stratégie, c'est d'étendre notre périmètre d'intervention sur la plupart des cours d'eau. Alors bien évidemment, sur un territoire comme le nôtre, c'est 700 km de cours d'eau, on ne peut pas intervenir partout, tout le temps. Donc il a fallu avoir une grande phase de priorisation, c'était vraiment l'objet de cette stratégie. Et donc à travers ça, la collectivité s'est positionnée en fait sur, au titre de l'intérêt général, sur des interventions qui couvriront un peu moins de 20% des cours d'eau, à savoir 129 km précisément.
Et où, quelle partie en fait de ces cours d'eau du coup ?
Alors comment on a défini ces cours d'eau ? On les a définis en fait à travers deux prismes. Le premier, c'est bien sûr de regarder finalement entre guillemets les obligations réglementaires qui incombent à la collectivité et qui nous oblige quelque part à intervenir sur certains cours d'eau. Donc c'est essentiellement les principaux cours d'eau, donc c'est la Lergue sur l'Hérault, ça tombait bien, on était déjà dessus, la Dourbie, la Boyne, etc., etc. Et ainsi que le Salagou sur la partie vraiment cours d'eau et non pas le lac. Dans un second temps, on a aussi eu une grande phase de concertation avec les élus du territoire pour définir les enjeux plus locaux. Quelles étaient les problématiques très locales sur lesquelles notre service GEMAPI devait intervenir. Et c'est à partir de là où on a pu également intervenir sur les plus petits affluents de ces principaux cours d'eau, au regard vraiment de ces enjeux définis dans le cadre de cette concertation.
Et alors qu'est-ce qui a été fait déjà sur certains de ces cours d'eau ?
Alors, sur la Lergue et sur l'Hérault, nous avons déjà réalisé 3 tranches de travaux. Donc les travaux concernent essentiellement la restauration de la ripissive. Alors quand on parle de restauration, ça veut dire en fait c'est notre première intervention sur ces travaux-là, dans la mesure où jamais personne n'a réalisé ce type de travaux. Ensuite derrière, on va rentrer dans une phase d'entretien, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini cette première intervention, on devra continuellement intervenir sur des fréquences plus ou moins importantes en fonction des enjeux. Donc ça a été les premiers travaux qui ont été faits.
Et c'est quoi la restauration de la ripissive ? Concrètement, techniquement, c'est quoi finalement ?
Oui, alors restaurer une ripissive, ça consiste en quoi ? La ripissive, donc déjà, c'est la forêt qui borde le cours d'eau. C'est considéré comme une zone humide. Je tiens juste à le dire ça parce qu'en ce moment, on parle de toutes ces problématiques d'inondation, alors que concrètement, dans l'actualité, on est plutôt dans des problématiques de « on n'a pas assez d'eau ». Le lien, comme l'a dit le président tout à l'heure, il est pourtant, alors il n'est pas direct, mais quasi, la ripissive, c'est comme une éponge. Et donc si elle est bien fonctionnelle, et je vous dirai comment on fait effectivement pour la rendre plus fonctionnelle, elle fonctionne comme une éponge. Et donc elle va permettre, en termes de ressources en eau, de limiter les assecs, les étiages l'été, en relarguant, en rejetant de l'eau régulièrement. Et au contraire, quand il y a des crues, elle va permettre de limiter le pic de crue en absorbant l'eau. Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Parce que la ripissive, en fait, c'est surtout tous ces arbres qui sont adaptés au bord de cours d'eau, qui ont un système racinaire très profond et qui, en plus, effectivement, de bien maintenir, de maintenir les berges contre l'érosion, en plus d'épurer les eaux qui ruissellent jusque dans le cours d'eau, vont aussi permettre, dans la rétention, dans le sol en fait. C'est la qualité du sol qui dépend de ça. Donc comment la GEMAPI, elle répond aussi à cet enjeu de ressources en eau, en étant bien fonctionnelle finalement, si on est bien maillé sur le territoire, on a un sol qui absorbe, qui infiltre plutôt qu'il ne ruisselle. Voilà, et donc concrètement, on va travailler effectivement sur certaines zones, on va plus chercher à désembâcler, c'est-à-dire à enlever les embâcles, des bouchons qui se forment dans la rivière et qui risquent, en cas de crue, de sortir d'un coup et d'engendrer des dégâts. Quand on travaille sur ce genre d'enjeu, on est plutôt en amont des ouvrages hydrauliques. Et l'enjeu, là, il est vraiment de protéger contre des risques. Ensuite, quand on veut plus travailler sur la trame verte et la trame bleue, on peut se le permettre quand on est plus sur des zones à moins fort enjeu, là où il n'y a pas eu d'implantation en fait, d'enjeu, là où il n'y aurait peut-être pas dû y avoir, d'ailleurs, en lit majeur ou en lit même plus proche. Du coup, là, on va plus se chercher en fait, à soit replanter carrément par endroit. On peut replanter de la ripisylve, des arbres typiques qui vont repousser, qui vont d'ailleurs permettre de limiter l'invasion des espèces exotiques envahissantes, parce qu'une espèce exotique envahissante, par principe, c'est une espèce qui est opportuniste, c'est-à-dire qu'elle pousse là où il n'y a rien, là où il y a besoin de... Là, donc elle a besoin de soleil, de lumière, donc elle va être étouffée si on arrive à développer des espèces plus typiques en bord de cours d'eau. On va aussi chercher à ce qu'on appelle recéper, par exemple, les saulées. C'est coupé à la base, ça va la rendre plus dynamique, ça va la rajeunir, ça va la renforcer. Voilà, c'est ce genre d'intervention sur la ripisylve même. Mais nous, on a aussi la particularité d'avoir un enjeu en fait, sur le cours d'eau, notamment sur l'Hérault. L'Hérault a été donc beaucoup exploité pour l'extraction de granulats. À l'époque, on pouvait le faire en lit mineur et ça a eu des impacts très négatifs à l'aval, à l'amont et sur des décennies, ça s'est propagé tout doucement mais insidieusement. Et l'Hérault par endroit est incisé de 3-4 mètres. Et ce qu'il faut comprendre, la problématique encore une fois de lien entre l'incision et le reste des usages, par exemple ça va pouvoir impacter tout simplement les ponts, les ouvrages hydrauliques qui sont implantés dans le lit, qui peuvent être amenés carrément à être déchaussés. Mais il y a encore une fois un lien direct avec la ressource en eau puisque beaucoup de nos captages d'eau potable sont en fait implantés dans ce qu'on appelle la nappe d'accompagnement des rivières. Et c'est une nappe qui dépend du niveau en fait, du lit. C'est-à-dire que plus le lit va s'enfoncer, plus l'accès à cette nappe va être difficile. Donc là, le travail qu'on a mené et qu'on mène maintenant depuis 3 ans, c'est d'essayer de remobiliser les sédiments qui sont parfois piégés dans le lit mineur, faire en sorte de faciliter leur remobilisation lors des crues, pour reformer ce qu'on appelle un matelas alluvial dans les cours d'eau, accompagner finalement aussi la mobilité parfois latérale des rivières, c'est-à-dire que finalement accompagner le fait que la rivière peut aller éroder et chercher sur ses côtés pour qu'elle puisse se rehausser et du coup faciliter notre accès à la ressource. Donc voilà comment clairement cette compétence est aussi une formidable opportunité pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique ou de l'érosion de la biodiversité. Oui.
Qu'on comprenne bien, finalement, c'est pas statique une rivière, c'est vivant, c'est mobile, rien n'est gravé dans le marbre pour son lit, pour son cours d'eau.
Exactement, on parle d'équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'une rivière, c'est un milieu vivant et qui cherche en permanence, face aux changements, notamment du temps, en fait, hein, suivant, on parle de débit liquide, mais aussi de débit solide, donc suivant ces sédiments qu'elle va éroder, donc elle cherche sans arrêt cet équilibre dynamique et c'est aussi pour ça qu'il est important voilà, de favoriser la continuité des cours d'eau parce que ça en fait les barrages ou les seuils ont aussi engendré des obstacles qui ne permettent plus aux sédiments de circuler et qui engendrent encore une fois des ruptures, des dysfonctionnements qui impactent à nouveau loin en amont, loin en aval. C'est vraiment un milieu, pour intervenir localement, ça nécessite d'avoir vraiment une vision globale. Et c'est souvent d'ailleurs des choix de gestionnaires pour trouver ce fameux équilibre entre les aspects écologiques, mais aussi les enjeux et les aspects hydrauliques ou encore une fois sédimentaires.
Juste pour compléter, effectivement, on touche du doigt un peu toutes les limites finalement des politiques de lutte contre l'inondation qu'on a pu faire dans les années antérieures. Effectivement, la rivière, c'est quelque chose de vivant, qui peut avoir de la mobilité latérale, qui peut bouger, prendre de la place. Pendant très longtemps, on a essayé, via des aménagements assez conséquents, du bétonnage, etc., essayer de chenaliser, canaliser un peu ces cours d'eau. On s'est rendu compte qu'au final, c'était souvent peine perdue. Et aujourd'hui, la nouvelle politique qu'on essaye de mettre en place, c'est plutôt de laisser davantage de place à ce cours d'eau, quitte à éventuellement envisager le déplacement de certains usages qui n'ont pas lieu d'être là où la rivière est à proximité.
On n'en a pas parlé justement aussi, parce que c'est aussi la prévention auprès de la population. Voilà. Quel est le travail mené pour justement informer, expliquer à cette population ces problématiques
Oui, alors la communication fait partie d'un des axes majeurs de la stratégie d'intervention foncière qui a été adoptée par les élus du Clermontais. Effectivement, à plusieurs niveaux, c'est une compétence récente, c'est des enjeux majeurs. Et donc c'est important de pouvoir sensibiliser le grand public par rapport à tous ces enjeux, mais aussi particulièrement les propriétaires riverains des cours d'eau, puisqu'en fait les propriétaires riverains des cours d'eau sont responsables de l'entretien du cours d'eau jusqu'à la moitié de leur parcelle. Et donc l'idée, c'est, comme le disait Julien, il y a ce changement de paradigme. On a beaucoup été dans le génie civil, dans la chenalisation, dans les enrochements, des points durs qui au contraire en fait font plus de mal que de bien. Aujourd'hui, on change des façons de faire et ça nécessite de sensibiliser, de former, d'expliquer pourquoi, parce qu'il y a des idées reçues qui restent, qui persistent, c'est normal. Donc ça prend du temps. Donc on développe ce plan de communication, ça commence par cette stratégie d'intervention, mais on prévoit également d'avoir des plaquettes d'informations qu'on puisse, même des guides qui vont un peu plus loin techniquement auprès des propriétaires riverains. Voilà, l'idée c'est d'éviter la situation où le propriétaire riverain, parce qu'il fait face à une érosion, va solliciter des déclarations, des autorisations par exemple pour un enrochement, quand nous on travaille avec de l'argent public pour restaurer et supprimer des enrochements et restaurer les milieux de manière à ce qu'ils soient plus naturels. Donc c'est effectivement un enjeu majeur et c'est pour ça que c'est également une opération ambitieuse qui a été mise en œuvre sur cet aspect communication, sensibilisation et même concertation. Hein. On travaille aussi suivant des thématiques un peu fortes. Quand on veut, on a pour ambition d'être plus sur des restaurations de sites. Si on veut réussir notre projet à long terme, c'est évident qu'il faut associer le plus possible les usagers, les acteurs du territoire, voire les propriétaires quand ce sont des propriétés privées. Et c'est ce qu'on a engagé là sur la gravière de la Prade, donc un site majeur sur le Clermontais, mais à l'échelle de tout le bassin fleuve Hérault et même du département. C'est une configuration totalement unique.
Quoi majeur ?
Majeur parce qu'on a là en fait 60 hectares en bord du fleuve Hérault qui sont suite à une extraction de gravier, mais qui avait été laissé à l'abandon en fait, et donc aussi oublié des hommes, et donc sans pression, devenu un site d'intérêt écologique majeur, et surtout la zone humide qu'on a normalement en bord de cours d'eau, mais pas sur 5 mètres. Aujourd'hui, la ripisylve se réduit souvent à un petit cordon rivulaire. Normalement, on devrait être plutôt sur des largeurs et des bandes qui font 20-30 mètres. Et sur la gravière de la Prade, on a exactement cette configuration. Donc on a cette fameuse éponge qui est très précieuse. On sait maintenant, parce qu'on a lancé une étude l'an dernier, qu'elle est assez fonctionnelle. Donc elle est efficace effectivement pour restituer l'eau ou au contraire absorber les pics de crue. C'est aussi un site qui est extrêmement intéressant du point de vue de la biodiversité, mais c'est aussi un site qui est intéressant du point de vue hydraulique parce qu'il représente le fait qu'il y a cette... que lorsqu'il y a des inondations, l'eau y déborde sans qu'il y ait d'enjeu. Eh bien, on peut appeler ça et on peut favoriser au final ce débordement. C'est ce qu'on appelle des zones d'expansion de crue. Ça permet en fait à l'Hérault de perdre de sa vitesse et de sa force en s'étendant en amont, donc de zones qui sont à enjeu. On pense par exemple en aval aux villes de Bellarga qui sont juste en bord de cours d'eau. Voilà. Donc favoriser ce genre de site, de zones d'expansion de crue, faire en sorte qu'ils soient fonctionnels, voire les optimiser, permet aussi d'avoir un intérêt hydraulique.
C'est situé à quel endroit exactement ?
À Canet.
Oui. Et quelque part, c'est déconstruire un peu les idées reçues, que ce soit des propriétaires, que en fait les rivières, ça a été les grandes oubliées en fait quelque part, parce qu'à jeter des gravats, etc. En fait, on oublie la biodiversité, on oublie que c'est une ressource qui nous permet de vivre. Donc voilà, ce plan-là va dans ce sens quelque part de retrouver une connexion avec la rivière. Quoi.
Oui, les rivières, c'est un petit peu à double. Ça a effectivement représenté à la fois une barrière géographique en tout temps, mais ça a aussi, pour beaucoup de personnes, de locaux quand même, c'est souvent des histoires de vie, de baignade, d'enfance. Donc c'est un petit peu, à double, il y a double facette. Il y a aussi eu, effectivement, si en milieu urbain, cette tendance à la bétonisation, en milieu rural, ça a été plutôt ce phénomène un peu d'oubli, effectivement, de détournement de ces cours d'eau. Mais voilà, donc l'objectif, c'est effectivement de à la base, simplement de faire connaître. Parfois, on a des nouveaux arrivants qui ne savent pas qu'ils ont une rivière à côté de chez eux, en fait. Donc il y a effectivement du travail. Mais il y a aussi un changement vraiment de culture et de façon de faire. Donc ça s'explique, c'est normal. Et je pense que les élus ont bien pris la responsabilité, la lourde responsabilité de cette compétence, mais voient effectivement toute l'opportunité d'agir concrètement aussi.
J'aurais aimé évoquer la question des ressources qui est liée, parce qu'on sait qu'on risque de passer un été compliqué. Est-ce qu'on peut faire un point de situation aujourd'hui à l'instant T, voir s'il y a des endroits où les risques sont plus prégnants, et est-ce que tout simplement vous avez des conseils ?
Alors oui, je vous confirme qu'on va passer un été compliqué, même si aujourd'hui on va dire que la continuité de service, c'est-à-dire l'alimentation en eau potable de la population, est assuré sans signe, on va dire, avant-coureur de difficultés. Donc nous, on y est particulièrement attentif, notamment sur des secteurs comme le secteur de Brignac, Perret-Cabrières, où là, tout à l'heure, on a parlé de nappes alluviales, c'est-à-dire des nappes, des éponges qui sont en lien direct avec les cours d'eau. Là, on est plutôt sur des nappes de taille plus réduite et qui sont des karsts. Donc en fait, c'est des massifs calcaires fissurés dans lesquels circule l'eau, qui sont en règle générale très peu connus, mal connus, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. Et donc là, on va dire, on sait qu'on est sur des limites de ressources bien plus contraignantes. Et là, on a effectivement quelques risques avérés. Donc bien sûr, nous, notre politique avant tout, c'est d'éviter de limiter le gaspillage. C'est une politique que l'on mène depuis 2018, suite au transfert des compétences eau et assainissement. On commence à avoir des résultats qui sont quand même assez intéressants dans la mesure où nous, au niveau de la collectivité et à l'échelle des 21 communes, on a réduit à plus de 10% nos prélèvements pour alimenter en eau potable les populations, et ce depuis 2019, via les travaux que l'on réalise chaque année, via les recherches de fuites que l'on fait, les fuites que l'on traite. En parallèle de ça, bien évidemment, de toute façon, nous sommes sur un contexte de sécheresse qui est avéré. On considère que la sécheresse, elle court depuis mars 2022. Nous, on a le sentiment qu'elle est là que depuis quelques semaines. Non, c'est depuis mars 2022, on est vraiment sur un déficit important de pluviométrie. Et donc là-dessus, bien sûr, il y a l'arrêté. Le préfet a établi un arrêté préfectoral qui limite effectivement certains usages. Tout ce qui est remplissage de piscines est désormais interdit. Tout ce qui est arrosage de jardins hors potager est également interdit. Donc il y a effectivement un effort collectif à mettre en place si on veut effectivement limiter au maximum le risque d'avoir des coupures d'eau qui malheureusement peuvent arriver tôt ou tard sur une de nos communes.
D'accord. D'où l'importance aussi de travailler à des interconnexions, je crois que...
Exactement,
vous
tout à fait. Nous, là-dessus, effectivement, ce qui n'était pas forcément toujours possible à l'échelle communale, parce qu'il fallait des ententes, etc., et puis il fallait que quelqu'un prenne un peu de recul pour se positionner sur ce qu'on appelle des interconnexions, c'est le cœur un peu de notre schéma directeur intercommunal en eau potable, où justement on joue quelque part sur la solidarité intercommunale au sein de notre propre territoire. À ce titre-là, on a déjà, par exemple, fait une première interconnexion entre Serras et Saint-Félix-de-l'Odèze. Il y a 2 ans, Saint-Félix-de-l'Odèze, on a fait du transport d'eau. Alors peut-être que les populations ne s'en sont pas rendues compte, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot. Mais on a transporté plusieurs centaines de mètres cubes pour éviter, à un moment donné, une coupure d'eau sur Saint-Félix. Pour éviter de revivre cette situation-là chaque été, on a réalisé une première tranche de travaux, on est quand même sur 800 000 euros de travaux, qui consiste en fait à créer une interconnexion entre Serras et Saint-Félix-de-l'Odèze, ce qui nous a obligés également de faire ce qu'on appelle un forage dirigé, de passer sous l'autoroute. Donc techniquement, pas forcément hyper simple. Toujours est-il que ça a été mis en service dès l'été précédent, et on constate qu'on n'a pas eu cette difficulté-là. Et bien sûr, d'autres interconnexions sont appelées à grandir au sein de notre territoire. La prochaine, ça sera entre Aspirant-Pollan, etc., etc.
Ça veut dire qu'il y a une forme de solidarité entre les communes au niveau de la ressource en eau.
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que les ressources en eau ne sont plus vécues à l'échelle communale. On sent bien qu'elles ont pris une dimension collective, ne serait-ce qu'à l'échelle de notre communauté de communes. C'est un des points positifs, je pense, du transfert de compétences de 2018.
Merci Julien Golembski, c'est comme ça ?
Golembski. Okay. Directeur du pôle intercommunal de l'eau.
Voilà.
Cette émission a reçu le soutien financier de la communauté de communes du Clermontais.